Roubaix, c'est la France.
Roubaix, Portugal, Criol.
Roubaix, Ville-Monde.
Ça, c'est Sénégal, Algérie, Cameroun, Maroc, Guinée-Bissau.
Roubaix, la diaspora, tout ça sur Radio Boomerang 89.7 FM. C'est ça, la diaspora.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio Boomerang 89.7 à Roubaix. Nous sommes dans le programme Diaspora. Nous avons nos invités Pierre Outeric et Jérôme. Jérôme déjà
Scamps.
Jérôme Scamps. Nos invités qui maintenant sont pratiquement familiers de la radio.
Et heureux de l'être.
Voilà, heureux de l'être, comme vous venez de l'entendre.
Donc, et bonjour à chacune et chacun, il est 15h.
Voilà, il est 15h, tout à fait. Alors, je vais aller tout droit dans le programme, tout en me présentant déjà Kanté Dembo, l'animateur habituel de l'émission Diaspora. Pierre, apparemment, tu as une annonce à faire, tu as... sur des actions des futurs.
J'ai une annonce.
Oui.
Mais qui correspond à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays.
Oui.
Vous savez que demain,
oui,
le gouvernement a décidé de passer en force,
oui,
au Parlement,
oui,
à la Chambre des députés, pour,
oui,
la loi sur les retraites,
absolument,
en utilisant cette arme thermonucléaire qui est le 49-3.
Oui,
ça veut dire que le 49-3,
oui,
il n'y a plus de débat.
Oui.
Alors,
oui,
le gouvernement, demain, va sortir un texte, j'en dirai deux mots. Il va indiquer qu'il le passe par le 49-3.
Oui.
Et il y a deux solutions. Ou, oui, personne ne bouge à la Chambre des députés, et il passe comme une lettre à la poste.
Oui.
Ou alors, il y a des députés qui décident de poser une motion de censure. Là, il y a encore deux solutions. Soit la motion de censure obtient la majorité et le gouvernement doit démissionner, soit il n'obtient pas la majorité et le texte passe.
Oui.
C'est un coup de force.
Oui.
C'est,
oui,
un coup de force antidémocratique. C'est un coup de force qui recasse le débat, qui empêche le débat, qui est d'autant plus scandaleux qu'on nous dit, voilà, c'est trop lent, ça allait trop lent, on n'arrivait pas à discuter sur le fond. Mais quand même, le gouvernement annonce qu'il y a 200 amendements qui vont être inscrit dans ce nouveau texte. C'est le 4 ou 5e texte, ce qui pose énormément de problèmes. Voilà.
D'accord.
Donc, on va avoir un texte,
oui,
qui ne sera pas voté, qui ne sera pas discuté,
oui,
qui va quand même continuer, parce qu'il y a après le Sénat qui doit prendre position, etc. Mais voilà. C'est, en fait, on casse, on empêche le débat. Et c'est la première fois que dans notre pays,
oui,
nous avons un gouvernement qui a une très large majorité,
majorité
au Parlement, plus de 300 députés, sans, oui, compter leurs alliés, donc qui n'est pas mis en danger et tout, et qui refuse le débat. C'est une position de force. Ils refusent le débat parce que, certes, on me dira, oui, les partis de gauche sont un peu désorientés, ils sont éparpillés et tout. Non. Il y a dans notre peuple,
oui,
une volonté, une révolte, un ras-le-bol. Ils en ont marre. Beaucoup de nos conscients en ont marre.
Oui.
Ils se rendent compte qu'ils sont dupes de cette affaire,
oui,
que ce nouveau texte va toucher,
oui,
leurs enfants et leurs petits-enfants.
Oui.
Et donc, c'est pour ça qu'ils en ont ras-le-bol. Après, je vous parlerai du scoop, mais peut-être que notre ami
Jérôme
a le regard du syndicaliste.
Oui, oui, Jérôme.
Oui, on est bien obligé d'avoir le regard du syndicaliste.
Oui.
Et... pour moi, c'est un oukase,
oui,
gouvernemental.
D'accord.
Oukase qui veut empêcher tout dialogue. Et ce que je dis aujourd'hui,
oui,
discuter 4e, 5e texte,
oui,
avec 200 amendements, moi je peux t'assurer,
oui,
mon ami Kanté,
oui,
que depuis que nous manifestons,
oui,
je n'entends pas, moi, renégociation.
Oui.
J'entends purement et simplement,
oui,
retrait du texte.
Ouais, le retrait du texte.
Le retrait du texte
purement
signifie qu'on repart sur de nouvelles bases,
oui,
et que le gouvernement ne vienne pas nous dire,
oui,
que nous n'avons pas fait de proposition. Oui. C'est faux. Oui. Puisque les organisations syndicales dans leur ensemble ont fait des propositions de textes, oui. de solutions, oui. de propositions, de pistes. Tout ça a été balayé d'un revers de main. Ou alors, si les quelques explications de textes qui ont été données par certaines OS oui. ont peut-être été acceptées, c'est vraiment du bout des lèvres. Oui. Mais sur l'essentiel, oui. sur le fond, oui. ils n'ont pas entendu les organisations syndicales et surtout, ils n'ont pas entendu la colère du peuple.
Oui.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui. On a même le Conseil constitutionnel qui dit « Mais arrêtez, vous allez droit dans le mur. Il y a des trous énormes dans ce texte.
Oui.
Rends-toi bien compte, très cher ami Canté,
oui.
qu'on n'en arrive même pas à savoir le point, la valeur du point qui devrait normalement régir les calculs, on ne le connaît même pas.
Oui.
Ce qu'il y a sur le regard des syndicalistes aujourd'hui,
oui.
c'est que cette affaire oui. de passer en force,
oui.
c'est parce que derrière, des actionnaires, des fonds de pension sont là pour venir leur vendre leurs produits nocifs à la classe ouvrière oui. et au monde du travail.
Oui.
Et ça, faut pas l'oublier. Et okay. je rappelle quand même que dans ce pays,
oui.
j'en connais beaucoup
oui.
qui ne pourront pas, de oui. toute façon, se fabriquer leur retraite
oui.
parce que les salaires sont d'un tel niveau, oui. je ne dis pas non plus marasme salarial, mais d'un tel niveau,
oui.
que beaucoup ne pourront pas le faire. On a déjà des difficultés dans ce pays
oui.
à pouvoir payer des études à nos oui, enfants,
absolument.
À pouvoir se soigner correctement.
Oui, oui, oui.
Je ne parle même pas des quelques petits événements culturels que oui. l'on pourrait faire, etc. etc.
Absolument.
Aujourd'hui, tout compte. Un euro, c'est un euro.
Oui.
Je pense qu'aujourd'hui,
oui.
notre lutte...
Oui.
C'est aussi rejoindre celle des gilets jaunes.
Oui.
Elle est complémentaire.
Complémentaire.
Pourquoi
oui.
Parce qu'à un moment donné, j'en finirai là, oui. ce sont aussi des gens du peuple qui sont privés d'emploi,
oui.
ou sont dans des emplois précaires,
oui.
ou dans des emplois, mais vraiment mal payés.
Oui.
Et que disaient-ils
oui.
il y a un an et demi
oui.
On veut vivre décemment,
oui.
on veut vivre sereinement
oui.
et pouvoir donner une perspective d'avenir à nos enfants.
À nos enfants oui.
Il est aujourd'hui, quand on analyse ce mouvement,
oui.
il rejoint en convergence les intérêts
oui.
que les salariés organisés dans les syndicats démontrent aujourd'hui par la lutte.
Oui.
Donc effectivement aujourd'hui,
oui.
que ça soit les salariés organisés avec les syndicats,
oui.
même voire sans syndicats,
oui.
ou les gilets jaunes, il y a convergence. Et c'est pour ça que le gouvernement a intérêt à faire attention.
Oui.
Parce que, à force de ne pas écouter, ça n'est plus du mécontentement qu'on enregistre.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a une grande, grande colère.
Oui. Merci, Jérôme. Et avant le scoop de Pierre, je voulais dire que le gouvernement n'est pas sûr de lui. Parce que dans la majorité, je pense qu'il y a des remous quand même dans la majorité. Ce qui fait que malgré que le gouvernement a une large majorité à l'Assemblée, n'arrive pas à faire passer cette loi sans appliquer cet article 49.3.
La contestation, elle naît aussi dans son propre camp.
Exactement.
Je rappelle aussi que dans son propre camp, il y a des députés qui sont aussi, vont devoir rendre des comptes.
Oui.
Ils ont certainement dû rencontrer aussi, parce que par rapport aux écoutes que l'on a, nous,
oui.
et aux informations que l'on a,
oui.
des gens qui viennent voir leurs députés en marche pour
oui.
dire « Mais qu'est-ce que vous nous faites ?»
oui.
Donc forcément, il n'est pas à l'aise.
Oui.
Mais un gouvernement qui dénie au Parlement
oui.
le simple fait de pouvoir discuter, d'amender et de le voter... Je n'irai pas jusqu'à dire que ça devient dictatorial, mais en tout cas,
mais
ça devient très autoritariste.
C'est un coup contre la démocratie.
C'est un coup contre la démocratie.
Ouais, c'est un coup contre
et c'est un coup contre le peuple.
On peut le dire comme ça.
Je le dis, moi je le pense comme ça, j'assume.
Et quelle confiance
oui.
nos concitoyens
oui, Pierre.
Pourront-ils avoir avec des députés qui acceptent cela
oui.
N'est-ce pas un moyen
oui.
pour vider notre peuple
oui.
de l'idée qu'il peut avoir de faire les lois.
Ouais.
Et c'est très grave.
Ouais. Bon, ok. Pierre, je pense que on va passer peut-être très rapidement au scoop.
Je vais faire un petit détour avant d'aller au scoop. Oui. Parce qu'un scoop est intéressant. Oui. Si on met un peu les gens en haleine, chers auditrices et chers auditeurs. Voilà. Bon. Oui. Alors, tout d'abord, vous savez que le 8 mars oui. est une date importante.
Exactement.
Certains qualifient le 8 mars de journée des femmes.
Oui.
Je trouve ça un peu restrictif. Je vais vous dire, pour moi, la journée des femmes, c'est 365 jours par an. Et cette année, année bissextile, 366 jours par an. Voilà. Bon. Mais, oui.
Tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on dit que le 8 mars, c'est la journée des femmes.
Non.
C'est pour toi la journée des luttes.
Le 8 mars, ça vient d'une grande idée.
Oui.
Une idée qui naît au milieu du 19e siècle. Avec cette magnifique formule.
Oui.
Rédigé par deux grands philosophes,
oui.
dirigeants du mouvement ouvrier de l'époque,
oui.
Karl Marx et Friedrich Engels,
ouais.
prolétaires de tous les pays, unissez-vous.
Unissez-vous.
C'était ouais. qui les prolétaires
ouais.
C'était les ouvriers, les travailleurs,
ouais.
les privés d'emploi, les femmes,
ouais.
les paysans,
les petits commerçants,
ouais. tous ceux qui avaient du mal à vivre
ouais.
et qui voulaient voir autre chose.
Ouais.
Et cette idée que tout le monde soit uni et
ouais.
les mêmes droits,
ouais.
c'est ça qui est sous-entendu. Et alors, le 8 mars, ça vient d'où ?
Oui.
Ça vient d'une décision
oui.
qui a été prise au congrès de Copenhague,
oui.
de l'Internationale ouvrière.
Copenhagen, oui.
Copenhagen, au Danemark.
Danemark.
Oui. Le port des marchands, Copenhague.
Oui.
Voilà ce que ça veut dire en danois.
Oui.
Bon. Et donc, cette décision est prise à l'initiative d'une très grande dirigeante du mouvement ouvrier,
oui,
une femme,
mm-hmm.
hein, une Allemande,
oui.
Clara Zetkin,
oui.
qui demande un vote pour faire de chaque 8 mars
oui.
une journée de manifestation internationale
oui.
des hommes et des femmes, j'ai bien dit des hommes et
des femmes,
femmes oui, afin que les femmes obtiennent le même droit que les hommes.
Oui.
Et c'est tout à fait nouveau.
Oui.
On est à une époque en France où les femmes
oui.
étaient considérées comme des mineures,
oui, oui.
devant subir l'autorité de leur père, de leur mari, de leur patron.
Oui.
Elles n'avaient aucun droit, pas même le droit d'avoir un carnet de chèques,
oui, oui.
pas même le droit de disposer de leur argent.
Oui.
Voilà. Lorsqu'elles s'embauchaient, il leur fallait l'autorisation de leur papa pour
oui.
les très jeunes
oui.
ou de leur mari.
Oui, oui,
voilà.
oui.
C'était ça la place et le rôle des femmes inexistantes.
Elles n'avaient pas aussi le droit de vote aussi.
Ah, bien sûr. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Il faudra attendre 1945 pour que
oui.
dans notre pays, les femmes aient le droit des votes.
Oui.
On est dans cette période-là. Voilà.
Oui.
C'est ce combat.
Oui.
Et donc, c'est un combat fondamental.
Oui, hein, absolument.
Que les gens... Parce que cette inégalité, ça permet au patronat,
oui.
aux ceux qui ont les pouvoirs,
oui.
de s'insinuer dans cette inégalité...
Oui.
pour briser les luttes,
oui.
pour pousser les gens à la résignation.
Oui, voilà. oui, oui.
Donc c'est ce combat.
Oui.
Bien. Et alors, comme vous le savez,
oui.
Je suis président de l'association Les Amis de Martha de Rumeau,
oui.
et on a beaucoup travaillé, on est en période d'élection municipale, on a très
oui.
beaucoup travaillé, et on l'a mis en partage,
oui.
l'idée de lutter contre toutes les discriminations,
absolument.
Et discriminations sociales, le manque de fric, hein.
oui.
on est quand même dans la ville la plus pauvre de France,
oui.
des discriminations faciès,
oui.
et beaucoup de jeunes savent ce que ça veut dire,
oui.
et je vois parfois des choses inacceptables, dans des contrôles inacceptables.
Oui.
Voilà. Bon,
oui, absolument,
même
absolument.
Si il est tout à fait légitime
oui.
que lorsqu'il y a un problème grave, eh bien, il y ait contrôle.
Oui.
Mais je vois des contrôles inacceptables et tout le monde le sait.
Oui, oui.
Aussi, discrimination vis-à-vis de l'handicap.
Oui,
bon,
absolument.
Et dans notre ville aussi.
Oui,
hein. Et discrimination aussi. Concernant les femmes,
oui.
toutes ces mamans qui vivent seules, ces mamans qui ont des
avec
petits
des
salaires,
enfants.
Qui sont victimes de
oui.
violences.
Oui.
Hein, je raconte parfois comment je connais une dame de mon quartier, oui. Hein, qui recevait des mots sous sa porte, oui. Pendant des mois, oui. Pendant des mois, oui. Tout, plusieurs, de manière régulière en plus. Donc, oui. C'était même pas chaque jour. Non, non, oui. Bon, pendant 15 jours, il n'y en avait plus, puis ça revenait. Oui. Et des lettres, oui. Mais des lettres ignobles, oui. Hideuses, oui. La menaçant de mort, oh là là. Disant qu'on l'a surveillée, oh là là. Qu'elle était surveillée, oh là là. La menaçant de viol.
Oh
bon.
Là. Oh là là.
Et elle a porté plainte. C'est pas simple de porter plainte. Et je l'ai poussée à porter plainte. Elle a porté plainte. Et malheureusement, ouais. Eh bien, cette plainte n'a pas abouti.
Oui.
Bon, nous avons dans cette ville, mais je crois pas que c'est le seul, ouais. Un type, un dangereux individu,
ouais.
Qui a envoyé ses courriers.
Ouais.
Bon,
ouais.
Alors ses courriers ont cessé, mais l'individu existe toujours. Hein.
Oui, voilà. Ouais.
Bon.
Absolument.
Alors
absolument.
Donc, ses courriers ont cessé lorsque... on a su qu'elle avait porté plainte. Voilà.
Ouais, ouais.
Bon. Donc, je reviens là-dessus.
Oui.
Alors, j'ai... Et donc, je suis très sensible avec mes amis de l'espace Éluard,
ouais.
À ces questions-là. Et je suis d'autant plus sensible, comme vous le savez, comme tu le sais, mon cher Kanté,
oui.
Je me bats depuis maintenant une dizaine d'années.
Absolument.
Avec cette idée très forte,
mmh.
Que le Panthéon, ce grand temple aux grands hommes et aux grandes femmes de notre pays,
oui,
hein, situé à Paris, que le Panthéon s'ouvre
ouais.
Au monde ouvrier,
ouais.
Et j'ajoute une ouvrière au Panthéon, Martha Desrumaux.
Martha,
c'était une femme du Nord, une femme du textile,
absolument.
Qui militait avec ses camarades ici, sur Roubaix,
ouais.
Sur Tourcoing, sur Lille, sur Aluin, sur Comines.
Voilà. Absolument.
Bon. Elle a été domestique à l'âge de 9 ans.
Oui.
Elle a commencé à travailler à l'âge de 11 ans.
Oui.
À 13 ans, elle s'est syndiquée. Alors que se syndiquer à l'époque, pour une femme, c'était totalement farfelu. Et c'était souvent mal vu, y compris dans les syndicats.
Et ce voilà. Qui est frappant, c'est qu'à l'époque, elle n'était même pas instruite.
Ah oui, elle a appris à lire et à écrire. Elle avait,
elle
27,
pas lire et écrire
elle avait 27 ans.
Ouais.
Alors, voilà. Donc, il y a ce combat que nous menons, qui est très large.
Ouais.
Bon, qui est très large. Bien sûr, il y a les amis de son syndicat, la CGT. Il
ouais.
Y a des camarades du Parti communiste.
Ouais.
Et je vois, par exemple, ici, dans notre secteur, je vois mes amis du Centre culturel du monde arabe.
Oui.
Bon, qui sont mobilisés autour de cette femme.
Ouais.
Hein,
ouais.
Entre autres, parce qu'elle a été contre le colonialisme.
Oui, voilà. Absolument.
Bon.
Absolument.
J'ai mon ami, le maire... Le maire honoraire de Tourcoing,
oui.
Fondateur de la CFDT,
oui.
Du textile,
oui.
Jean-Pierre Baldoui,
oui.
Qui participe à ce combat.
Oui.
Oh, je pourrais en citer des centaines dans toute la France et parfois
oui.
Des milieux très divers.
Oui.
Voilà.
Oui.
Bon. Mais j'ai des amis d'associations laïques, comme le Grand Orient de France. L'idée, c'est de rassembler le plus largement possible.
Oui, allez-y.
Et alors oui. Eh bien, il y a cette idée qui est survenue au secrétaire d'Union locale CGT,
oui.
Jean-Philippe Locher,
ouais,
qui
bien.
M'a téléphoné. Il vient juste de m'appeler. Il m'a dit, voilà, Pierre, j'ai cette proposition à faire. Et si tu peux en parler à la radio, ce serait formidable.
Ouais, voilà. C'est notre scoop.
Voilà, c'est le scoop. Alors, nous sommes dimanche. Dimanche, c'est le 8 mars.
Oui.
Sera organisée une manifestation partant de la gare, sans doute dans la matinée, jusqu'à l'Union locale, regroupant tous les hommes et les femmes d'ici, hein,
oui, oui.
Ceux qui luttent pour l'égalité des hommes et des femmes, et ceux qui luttent contre les retraites. Et j'ai une magnifique photo, là.
Oui.
C'est dommage, je ne peux pas la voir,
oui,
mais
oui.
Je l'ai ici devant moi,
oui.
Où on voit Martha Desrumaux dans une manif en 1946,
oui.
À côté d'Ambroise Croizat. Alors, Martha Desrumaux, c'est cette femme dont je vais vous parler, et Ambroise
oui.
Croizat, c'était un Savoyard. Il venait des Alpes,
oui.
Il venait du coin de Chamonix et tout ça.
Oui.
C'était un métallo, c'était un ouvrier métallo.
Métallo oui.
Et c'est lui qui, en 1945...
Oui.
A mis au point le système de retraite que nous connaissons,
Connaissant.
Qui a permis depuis maintenant presque 80 ans
oui.
À des millions d'hommes et de femmes,
femmes
de ce pays. Alors, ce système n'est pas parfait.
N'est pas parfait.
Ce système, comme le disait, comme le dit mon ami Jérôme Scam, il est pas parfait. Il doit être amélioré, mais pas à n'importe quel prix, pas pour faire n'importe quoi. Et je partage son idée qu'aujourd'hui, le gouvernement serait sage s'il retirait sa loi pour qu'on discute sérieusement de cette question-là, qui est une question importante. Alors, j'ai cette photo.
Oui.
Et alors, nos amis ont décidé
oui.
Que cette manifestation, elle soit bien sûr pour montrer l'hostilité des hommes et des femmes ici de Roubaix contre ces propositions faites par le gouvernement sur les retraites et aussi pour faire hommage aux femmes qui luttent aujourd'hui. Je pense à mes amis du textile, Fatia, que j'avais rencontré en 2014, etc., d'autres, voilà, bon, toutes ces femmes qui luttent pour vivre mieux, pour l'émancipation, et aussi de mettre en valeur Martha de Rimeau, et à la fin de la manif, on se retrouvera devant l'union locale CGT, qui est à Corty du commissariat de police,
à Roubaix,
à Roubaix, voilà, bon, et sera inauguré un espace, l'espace formation, et c'est important, la formation pour les travailleurs, c'est aussi un acquis, c'est un droit d'émancipation qui s'apportera Martha de Rimeau. Eh bien, je vous convie d'être
nombreux
ce dimanche. Bon, alors, j'en discutais avec toi quand tu es...
C'est le dimanche 8
Ce dimanche 8.
À quelle heure?
Ben, écoute, ça sera dans la matinée, ils n'ont pas totalement fixé l'heure, mais ils vous la communiqueront, vous la ferez connaître. Okay. Bon, je pense que le rassemblement se retrouvera à 11h30 devant la Bourse du Travail de Roubaix. Et j'ajoute, j'ai une semaine assez folle, là. Mercredi, je suis au Havre pour parler avec l'Institut d'Histoire Sociale CGT de Martha de Rimeau. Jeudi, je suis à Huy, en Belgique, pour parler de Martha de Rimeau, parce que c'était un camp de concentration.
Un
lieu de mémoire, voilà, bon.
Tout à fait.
Vendredi, je suis à Evenos, près de Toulon. Parce qu'il y a, c'est là où est morte Martha et son mari. Et il y a une rue qui portera le nom de Martha de Rimeau. Et voilà, je m'ennuie le dimanche. Et bien le dimanche, je serai à Roubaix. Voilà.
D'accord.
Bon. Donc voilà. Mais je crois que c'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui, à travers Martha de Rimeau, il y a des centaines, des milliers de femmes qui luttent dans notre pays, qui luttent dans le monde.
Absolument.
Des femmes, femmes paysannes, femmes ouvrières, femmes employées, femmes journalistes, femmes intellectuelles. Ces femmes luttent toutes, d'une façon ou d'une autre, pour des droits, pour la dignité, pour l'émancipation. Et je crois qu'à travers Martha de Rimeau, c'est le combat de toutes ces femmes que l'on retrouve et qu'on rencontre.
Absolument, c'est l'expression parfaite de l'humanité qu'elle a incarnée pendant toute sa vie dans son combat de tous les jours.
C'était mon scoop, dimanche 8, à Roubaix.
À Roubaix.
Avec toi, Jérôme. Ah non, toi, tu seras parti.
Bon.
Toi et lui,
sous notre cieux.
Sous notre cieux, bon.
D'accord.
Mais avec
une pensée quand même pour mes camarades de Roubaix.
Avec Kanté, avec toi Kanté, avec tous les auditeurs ici, avec toute l'équipe de Radio
Boulevard.
Absolument,
Boulevard, nous invitons tout
avec
le monde.
Jean, avec tous les potes, tous mes potes de Roubaix, tous ceux qui se battent avec moi, voilà. Bon.
Absolument, nous invitons tous ceux qui seraient disponibles à venir.
Et je suis sûr qu'il fera soleil.
Exactement, on espère qu'il fera beau, si la météo est clément. Clémente, donc le 8 mars, n'oubliez pas, c'est comme l'a dit Pierre, ce n'est pas une journée des femmes, c'est une journée de lutte pour les femmes, pour leurs droits, pour leur émancipation. Voilà, donc c'est une lutte qui date de plus d'un siècle. Tu veux dire quelque chose?
Oui, je voudrais ajouter quelque chose.
Oui, allez-y.
Parce que je l'ai appris grâce à toi, Kanté.
Oui.
La mort d'un ami, d'un ami qui vivait de l'autre côté de l'Atlantique, qui vivait au Nicaragua, cardinal.
Oui, absolument. Ernesto.
Ernesto Cardenal.
Ernesto Cardenal.
Prêtre.
Oui, prêtre.
Et poète. Prêtre, il faisait partie de ce courant de la religion catholique.
Qu'on appelle...
La théorie de la libération.
La théologie de la libération.
Qui est un courant qui a profondément marqué l'histoire du christianisme et l'histoire du XXe siècle. Notre ami Ernesto vient de disparaître.
Nous
essaierons de lui consacrer quelques minutes de plus la semaine prochaine. Voilà. Et j'ajoute une sorte de clin d'œil. Aujourd'hui, hier plutôt, lundi, eh bien, le Vatican va ouvrir des archives un peu brûlantes, un peu sulfureuses, celles du pape lors de la Deuxième Guerre mondiale, entre 1939 et 1945. Pie 11. Voilà, bon. Et donc, il y avait des hommes à cette époque, des chrétiens qui se battaient avec les résistants pour dénoncer le génocide juif, comme il y avait en Amérique du Sud, eh bien, des chrétiens qui se battaient, qui se battent toujours pour la dignité de l'homme. Pour la dignité concrète de l'homme.
Absolument.
Pour faire que ces paysans du Nicaragua, du Chili, d'Argentine, du Brésil,
de l'Amérique du Sud,
de toute l'Amérique du Sud, puissent avoir une vie digne. Et je pense qu'il est bon que nous leur rendions hommage.
Un grand hommage, absolument. Mais comme tu l'as dit, la semaine prochaine, on va en profiter pour lui rendre un grand hommage. On va peut-être beaucoup plus parler de la théologie aussi de la libération qui a pris une proportion très importante. Certains l'assimilent au marxisme, vu les points de convergence en termes de
la valeur du partage.
De la valeur du partage, de certaines valeurs en tout cas. Pour les pays comme les États-Unis, par exemple, pour citer au moins ces pays-là, ils ne voient pas cette théorie, cette théologie d'un bon oeil. Et je pense que même le Vatican ne voyait pas cette théologie d'un bon oeil.
Ben oui, puisque notre ami Anercio Cardinal a été amonesté par le pape
Jean-Paul II,
lors d'une de ses visites au Nicaragua.
Oui, absolument. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est bien que tu aies touché ce point, cet aspect, pour qu'on puisse quand même, ne serait-ce que, en quelques mots, rendre un hommage à cet homme.
Et je voudrais aussi, puisqu'on l'a parler d'une amie que j'ai rencontrée sur Roubaix. Et qui m'a fait toucher quelque chose d'important. Elle est issue d'une famille portugaise, arrivée en France dans les années 60, fuyant et le fascisme de Salazar et les conditions de vie terribles que vivait le peuple portugais. Et la communauté portugaise est très importante sur Roubaix. Alors je l'ai rencontrée au mois de décembre, le 11 décembre, chez mon ami Hassan, à la Draperie. Et on a pris, quelques jours plus tard, on s'est retrouvés dans un café. Je peux faire la publicité, là, pour le Brouteux.
Pas de souci.
Je salue mes amis du Brouteux.
J'y passe aussi,
à un moment donné, on discutait, cette amie, qui savait que j'étais prof d'histoire, et puis elle me dit, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé le 25 avril 1974 Moi, je cherchais dans ma tête, j'étais en train de travailler sur les mineurs. Et puis à un moment donné, j'ai un flash.
La mémoire est revenue.
Un flash. Oui, mais la révolte des capitaines.
La révolution des
capitaines.
Oeillets,
j'avais oublié cette magnifique fleur rouge des œillets. Bon. Et alors, je vois les regards de cette amie qui s'illumine. Et elle me dit, tu vois, je n'avais que 2 ans.
À l'époque.
Et je me souviens, dans les courées, dans les rues, sur les places, ici à Roubaix, mes parents, mes amis, mes cousins, danser ensemble pour marquer la victoire du peuple portugais contre le fascisme. Et c'était aussi une autre victoire. Avec laquelle nous parlerons un jour, mon cher ami Kanté.
Absolument.
La victoire de tous ces peuples colonisés par le Portugal, vivant sur la férule du gouvernement polonais, pour ces jeunes soldats portugais, sur la férule du gouvernement portugais, voyant ces jeunes soldats partis du Portugal qui n'en voulaient plus de cette guerre.
Absolument.
C'est un moment de libération extraordinaire, à la fois pour les Portugais, mais pour tous les peuples colonisés, que ce soit ceux du Mozambique, de l'Angola ou de Guinée-Bissau, dont tu es originaire, mon ami.
Cap-Vert et tout
ça. Voilà aussi tout cela. Et si j'ai encore, mais peut-être que Jérôme, tu aimerais dire quelque chose.
Du tout, je t'écoute. J'avale tes paroles, mon cher.
Mais écoute, je voudrais terminer.
Oui, allez,
je voudrais terminer par quelque chose qui est important.
Oui.
Qui est important pour notre ville,
oui.
Pour notre belle ville de Roubaix. Cette ville de tous les possibles. Ville qui fut la Manchester du Nord, la grande ville du textile qui rayonnait un peu partout dans le monde.
Histoire quand même.
Et alors, belle histoire qui peut repartir, qu'il faut reconstruire.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Bien. Et alors, mardi dernier, j'étais au Frénois, cette belle salle du Frénois, cette belle réalisation du Frénois par le conseil régional, lieu culturel, moderne, etc. Et j'ai vu un film, La guerre des frères, présenté, le film tourné par un réalisateur qui travaille avec FR3, Christian Berthelet, et avec, comme historien, un de mes grands amis, Jean-René Gentil, qui était le spécialiste de la guerre d'Algérie, et en particulier les effets de la guerre d'Algérie dans notre région.
Oui.
Alors ce titre, il faudrait le discuter, nous n'avons pas trop le temps aujourd'hui, mais de quoi parle ce film? Il parle des combats fratricides entre des militants du MNA et des militants du FLN. Ce combat fratricide qui ont fait des morts, qui a fait des morts dans cette région, qui, ici, dans notre ville de Roubaix. Bon. Et je pense, j'ai eu Jean-René Gentil le lendemain au téléphone. On discutait à bâton rompu et je lui dis que je ferai une émission et je l'inviterai ici à venir, Jean-René.
Bon, sans problème.
C'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet.
Oui.
Et j'ai dit, tu vois, Jean-René, il y a quelque chose quand même qui pose un petit problème.
Oui. Bon,
certes, c'est vrai.
Oui.
C'est fait une guerre fratricide.
Absolument.
Il y a eu des morts pour des hommes et des femmes qui partageaient le même idéal. L'indépendance du peuple algérien. La lutte pour que les hommes et les femmes d'Algérie aient les mêmes droits et puissent relever la tête, vivre dignement après 130 ans de colonialisme. C'est ça qui est dramatique. Et je dis, mais ce qui manquait, c'était un peu dit, mais pas assez, c'est quand même que si cette guerre a eu lieu, si cette guerre a fait tant de morts, si cette guerre a duré 8 ans et plus, c'est parce qu'en France, il y avait un gouvernement colonialiste qui ne voulait pas négocier en Algérie. C'est parce qu'en France, il y avait des hommes qui voulaient que l'Algérie demeure une colonie. J'ai rencontré lors de cette projection de mes élèves, dont les papas étaient au MNA ou à FLN dans le Val-de-Sambre, à Aumont, où je travaillais près de Maubeuge. Et à la sortie, ils m'ont interpellé, bien sûr, parce qu'ils se souvenaient que j'avais été prof d'histoire. Et je leur ai dit, vous savez, vos papas, s'ils étaient au MNA, vos papas, s'ils étaient au FLN, les soldats français, ces ouvriers, ces jeunes ouvriers, ces jeunes paysans qui ne connaissaient rien de l'Algérie, qui ont été mis dans cette fournaise odieuse. J'ajoutais même ceux que les Algériens, que le gouvernement français utilisait ce qu'on appelle les harkis, qui après laissaient ignominieusement tomber, eh bien, tous ces hommes, militants du MNA, du FLN, soldats français, harkis, tous sont des victimes du colonialisme. Tous sont des victimes de ce déni qu'a eu les gouvernements français de l'époque, refusant d'ouvrir négociations et de faire en sorte que ces hommes et ces femmes aient le droit de vivre de manière digne et indépendante. Et j'ajoute, le 8 mai 1945, nous sommes à Sétif, au nord de l'Algérie, au bord de la Méditerranée. Il y a des grandes manifestations le 8 mai. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la fin de l'hitlérisme en Europe, etc.
Absolument.
C'est la joie dans les rues.
Ouais.
Et dans cette manifestation, il y a un jeune Algérien qui brandit un drapeau algérien. Scandale. On lui tire dessus, et c'est le début d'émeutes dans Sétif. Mais ces émeutes, elles furent réprimées d'une violence inouïe, d'une brutalité inouïe, sans plus de 30 000 morts morts, y compris des gens jetés par avion, etc., pour les faire écraser sur les rochers des canyons, etc. D'une brutalité inouïe. Et l'armée française, à Sétif, était rédigée par un... dirigée par un général qui n'était pas con. Il s'appelait Duval. Et Duval, après cette répression qui a duré plusieurs mois, a dit voilà, si le gouvernement français ne change pas de politique, eh bien dans 10 ans, ça recommencera et en bien pire. En la Toussaint 1954, il y a plus d'une quinzaine d'attentats dans toute l'Algérie.
C'est
le début de la guerre d'Algérie.
Et alors, l'indépendance d'Algérie,
pour revenir à ce que je vous disais, René Gentil, Jean-René m'a confié. Jean-René, prof d'histoire, inspecteur de l'éducation nationale, il m'a confié ceci. Pendant la guerre d'Algérie, lorsque dans telle ou telle ville, le Front de Libération Nationale FLN était puissant, il y avait quelques informateurs liés à la police, liés au renseignement de Giroud, qui disaient aux militants du MLA, du Mouvement National Algérien, eh bien, vous voyez, celui-là, il est au FLN, il faudrait que quand même, vous ne le laissiez pas faire. Et lorsque c'était le contraire, dans les coins où le FLN était affaibli et le MNA puissant, eh bien, il disait la même chose au FLN. Vous voyez le jeu qu'a pu jouer le gouvernement français. Et je pense que ça laisse des traces terribles dans nos régions.
Absolument.
Voilà. Moi, j'ai rencontré des jeunes, j'étais ici sur Roubaix ou ailleurs, qui... Il y avait 300 personnes, des gens de 40, 50 ans, de 20 ans, qui étaient là et qui écoutaient, et qui s'intéressaient, qui essayaient de comprendre. Et alors, qu'est-ce que ces jeunes ont de l'histoire de leur pays, de cette révolution algérienne qui a marqué la lutte de leur papa ou de leur grand-papa? Ils ont quoi? L'histoire officielle en France? L'histoire officielle en Algérie, qui n'est pas exactement la même. Ils ont le peu de cours, en cours d'histoire. Ils ont des récits familiaux qui sont des bribes. Des bribes, souvent pas totalement complètes, pas dans l'en dit. Mais c'est pas ça un scandale? Et alors là, j'ai vu ce soir-là, mardi dernier, ces jeunes, moins jeunes... écouter, entendre, essayer de comprendre. Eh bien, je crois qu'il nous donne une sacrée leçon. Que fait notre société? Que fait nos institutions? Que font nos villes pour que cette histoire soit reconnue dans ses contradictions, dans ses souffrances? Et je pense que c'est important aussi.
Absolument. Pierre, je suis vraiment content d'entendre ce que tu viens de dire sur l'histoire de la guerre d'Algérie, de l'indépendance d'Algérie. Mais je peux te dire que je peux faire un parallèle entre ce qui s'est passé en Algérie et dans d'autres pays, par exemple lusophones, puisque moi-même je viens d'un pays lusophone, Guinée-Bissau, Angola, Mozambique, Cap-Vert, Saint-Thomé. Il s'est passé des situations plus ou moins similaires. Mais on en parlera une prochaine fois, puisque on va arriver bientôt à la fin du programme pour laisser la place à notre collègue qui vient d'arriver. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Jérôme, sur le 8 mars.
Moi, je dirais simplement pour le 8 mars que je suis pour une journée de lutte, parce que s'il faut l'appeler comme ça. Et moi, je pars d'une anecdote. Il y a vraiment de la souffrance dans nos amis, de nos amis eux. Et je pars de cette petite anecdote d'une copine qu'on a rencontrée au local syndical. Elle s'occupe de l'entretien. Et elle nous a fait découvrir son parcours. Femme battue, 3 enfants qui ont aussi subi des violences. Et pour se refaire aujourd'hui, pour faire court, parce que l'émission ne peut pas s'étendre, il faut laisser la place à d'autres, bien sûr. C'est vraiment un parcours de souffrance, mais dans le même temps, elle est tombée dans un cercle aussi de solidarité et de fraternité.
Très bien.
Et on va l'aider.
Très bien.
Mais alors, de là où elle part, de là où elle est partie, aujourd'hui, elle doit tout reconstruire.
Oui.
Parce qu'en plus, elle est sous des protections, oui, forcément, oui, parce qu'il est ultra violent.
Oui.
Bon, les protections sont faites, oui, mais aujourd'hui, il y a quand même la peur qui, oui, s'instaure.
Absolument.
Et surtout, elle veut en sortir parce qu'elle veut donner un avenir à ses enfants.
À ses enfants, absolument.
Mais elle doit tout, je peux t'assurer, Kanté, oui, tout reconstruire. Mais quand on a un salaire d'agent d'entretien,
oui,
et qu'il faut retrouver un logement, se rééquiper parce qu'il a tout cassé,
ouais, ouais,
parce qu'il a détruit les jouets des enfants.
Ouais.
Pour elle, c'est un vrai parcours de combattant. Alors, on va l'aider du mieux que l'on peut, mais on va l'aider,
ouais,
parce qu'elle fait partie de ces centaines, de ces milliers de femmes qui, aujourd'hui, sont obligées,
ouais,
de par cette violence qu'ils auraient administrée,
oui,
malheureusement, par leur conjoint, leur ami, leur compagnon, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme.
Absolument.
Il faut effectivement, à un moment donné, savoir tendre la main. Et c'est dans la fraternité, alors qu'elle soit syndicale ou pas syndicale, peu importe.
Absolument.
Mais il faut savoir encore tendre la main. Mais il y a encore beaucoup à faire.
Absolument.
Dans ce pays, dans d'autres, pour qu'on arrive à une équité entre l'homme et la femme, j'en terminerai sur ces propos.
Merci beaucoup, Jérôme. Et je pense que Pierre voulait dire quelque chose.
Ah ben non, moi je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire Jérôme.
Oui.
Et je vous appelle simplement ce dimanche 8 mars vers 11h30,
voilà,
de vous retrouver dans ce cortège,
d'accord,
dans cette manifestation et dans cet hommage. D'accord. Et à travers Martha Durumeau, cette femme du Nord,
oui,
cette ouvrière qui a commencé à travailler comme domestique à 9 ans,
oui,
qui a travaillé en usine à 10 ans, qui à 13 ans s'est syndiquée alors que peu de femmes se syndiquaient,
oui,
mais c'était très difficile à l'époque, même si ça le demeure aujourd'hui.
Oui.
Eh bien, à travers Martha Durumeau, c'est toutes les femmes aujourd'hui qui ont lutté et qui luttent. Hein, je pense, oui, à mon amie Fatia, qui est une syndicaliste là, du,
oui,
textile, que,
oui,
que je sais à quel point elle lutte.
Oui.
Mais je pense à toutes ces femmes qui luttent, ici dans ce pays, dans le monde entier, femmes ouvrières, femmes salariées, femmes paysannes, femmes commerçantes, journalistes, intellectuelles, écrivaines.
Oui.
Toutes ces femmes qui se feraient un chemin,
oui,
dans nos sociétés pour obtenir des droits nouveaux, pour aller ouvrir la voie à l'émancipation humaine.
Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pierre, parce qu'on ne peut qu'être d'accord avec toi, tellement...
ah bon?
Non, mais pour tout ce qui concerne la lutte pour les droits, la conquête de certains droits des acquis... Pierre maîtrise quand même bien ces questions.
À chacun ses compétences, mon cher Kanté.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais, bon, j'espère que ça a marché, là, mon vieux. Hein. Parce que la question compétences, vous allez attendre de parler du pays. Hein.
Non, mais Jérôme, par exemple, il domine bien dans le domaine syndical.
Attends, mais c'est normal. Il a 125 ans,
ouais,
d'activité syndicale derrière lui.
Ne l'écoutez pas, chers auditeurs.
Ok, voilà. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Je remercie Pierre Outeric, je remercie Jérôme Schamps. Jérôme Schamps qui va nous laisser ces jours-ci. Il va partir...
Je m'en vais en Guadeloupe.
En Guadeloupe, donc de l'autre côté de l'océan Atlantique. Hein. J'aimerais bien être... dans ta valise.
Eh bien, j'enlèverai quelques caleçons, cher Kanté.
C'est bien.
Allez, merci, okay, à chacune.
Merci
à beaucoup. Merci à vous tous.
À vous tous et à vous toutes.
On arrive à la fin de cette émission du Diaspora à la radio Boomerang 89.7. Nous sommes quand même, je vous rappelle, le mardi 3
février.
Mars
3 mars
2020. donc, n'oubliez pas, on vous attend le 8 mars, dimanche 8 mars matin, à partir de 10h-11h, hein, à la Bourse du Travail.
Elle se situe rue de Belfort, côté du commissariat.
À côté du commissariat, voilà. Donc, c'est pour la manifestation concernant...
Et vous aurez tous les renseignements dans les... prochaines émissions de votre radio, de notre radio, Radio Boomerang, ici, de Roubaix.
Merci beaucoup, Pierre. Merci, Jérôme.
Merci à toi,
Donc,
Corté.
On s'est dit à la prochaine. Voilà.
À la semaine prochaine, chers amis, Merci. Auditrices et auditeurs.
Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Hein. On se retrouvera et ben, on se connaît maintenant. On s'est familiarisé beaucoup. Merci.
Roubaix, c'est la France.
Roubaix, Portugais, Criolle.
Roubaix, Ville-Monde.
Ça, c'est Sénégal, Algérie, Cameroun, Maroc, Guinée-Bissau.
Roubaix, la diaspora. Tout ça sur Radio Boomerang 89.7 FM. C'est ça, la diaspora.